tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Espace d'espèces, une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
Au royaume des insectes, les apparences sont parfois trompeuses. Regardez ces gracieuses silhouettes de 2 à 10 cm, formant au-dessus de l'eau un bal aérien coloré et discret. On les croirait sculptés dans du cristal tant leurs corps allongés et leurs ailes membraneuses sont fines et semblent fragiles. À tel point qu'elles ont inspiré nombre de créateurs, dont le maître verrier et bijoutier René Lalique avec sa femme Libellule, une sorte de broche devenue un classique de l'art nouveau. Même leurs gros yeux composés, loin de nous répugner, nous charmeraient presque. Pourtant, est-on bien sûr de savoir qui elles sont ? D'abord, on a tendance à mettre dans le même sac estampillé libellule tout et n'importe qui. En fait, il faut distinguer les libellules vraies, aussi appelées anisoptères, et les demoiselles, les zygoptères. Toutes deux font partie de l'ordre des odonates, terme donc plus adapté pour notre sac fourre-tout. Mais avant de vous donner les clés de leur distinction, sachez que le terme odonate n'est pas l'invention d'un poète. Non, odonata est un mot latin qui veut dire « pourvu de dents ». Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Les odonates, ces charmants insectes colorés, ont de puissantes mandibules, armées de dents très pointues avec lesquelles ils déchiquettent leurs innombrables proies, attrapées au vol à l'aide de leurs deux pattes avant. Ce sont de terribles carnassiers qui peuvent manger une centaine d'insectes par jour et dont la sélection se ferait sur simple critère de taille. Autrement dit, elles mangeraient tout ce qui bouge, à condition de pouvoir l'attraper. Il se pourrait d'ailleurs que ce détail leur ait valu d'être nommé par les anglophones « dragonfly », dragon volant ou mouche dragon. On raconte aussi que ce rapprochement avec les dragons viendrait de l'époque où les chrétiens luttaient contre le paganisme et diabolisaient cet insecte pour être lié à une déesse, Freya. Mais on dit aussi que ça viendrait du fait qu'on prenait son abdomen pour un dard. Alors va savoir. Et puisqu'on en est à décortiquer les noms, celui de libellule pourrait venir de libellus, petit livre, car leurs ailes, deux paires identiques, s'ouvrent et se ferment, comme les ailes des demoiselles quand elles sont au repos. Comme celles des demoiselles, mais pas comme celles des libellules vraies, qui sont différentes selon qu'elles sont antérieures ou postérieures, et qui restent ouvertes quand l'insecte est à l'arrêt. Voici d'autres moyens de les distinguer. Les demoiselles ou zygoptères sont de plus petite taille, 3 à 4 cm, et d'une grande finesse. Leurs yeux ne se touchent pas, ils forment deux grosses boules sur les côtés de leur tête. Au beau jour, vous pourrez observer quelques-unes de leurs représentantes. Des agrillons élégants, par exemple, qui comptent parmi les demoiselles les plus communes et qui se plaisent aussi bien au bord des rivières que des mares ou des lacs. Sombres, elles ont l'extrémité de l'abdomen bleu, ainsi que le thorax et que quelques points sur la tête. Si vous vous baladez dans le quart sud-ouest de la France ou éventuellement dans le nord-ouest de l'Espagne, vous allez probablement croiser le Calopteryx occitans, dont les mâles ont le corps d'un beau bleu métallique, de plus en plus sombre à mesure qu'on regarde au bout de leurs ailes. Quant aux femelles, leur corps est d'un élégant vert, métallique également. Pour avoir le droit d'être appelé libellule vraie, anisoptère, il faut être plus gros que ne le sont les demoiselles. Certaines espèces de libellules atteignent les 10 cm. Leurs yeux se touchent et couvrent une plus grande partie de la tête. Il arrive que dans certaines villes, on puisse rencontrer des anax empereurs, qui comptent parmi les plus grosses des libellules. Elles pèsent plus d'un gramme. Avec leur abdomen bleu parcouru d'une ligne dorsale noire, leur thorax vert et leurs yeux bleus ou verts. Bon, ça, ce sont les mâles. Les femelles, elles, ont un abdomen vert, toujours avec une bande noire. Vous entendez ? Le vrombissement que produit le frottement de l'air au contact de leurs ailes ? Leur vol est incroyablement rapide. Les libellules peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h, quand les abeilles dépassent à peine 30 km/h. Ce sont les plus rapides des insectes volants. Mais les odonates ont besoin de chaleur pour voler. Tant que la température n'est pas adéquate, elle reste posée. Les ailes des libellules sont extrêmement complexes. Elles peuvent bouger de manière indépendante et ont des capacités de torsion qui leur donnent beaucoup de possibilités, comme aller en vol arrière, changer rapidement de direction, faire des piquets ou du surplace, à tel point qu'elles auraient inspiré les ingénieurs pour la fabrication des hélicoptères. Les ailes des demoiselles, plus petites et plus simples, ne leur permettent pas une telle vitesse ni la marche arrière, même si leur vol est quand même remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est l'histoire des odonates. Durant le Carbonifère, il y a 340 millions d'années, leurs ancêtres, les protodonates, étaient avec les éphémères les premiers invertébrés volants, mais surtout, les plus grands qui aient jamais vécu. Si pas mal avaient la petite taille de celles que nous connaissons, d'autres mesuraient jusqu'à 1 mètre. Demoiselles et libellules sont des insectes, et comme tous les insectes, elles se métamorphosent au cours de leur vie. Les êtres délicats de toutes les couleurs correspondent à leur stade adulte, celui durant lequel elles pourront se reproduire. Mais avant ça, elles ont été des larves. Et elles sont beaucoup moins séduisantes. Brun foncé, avec le corps plus ou moins allongé selon les espèces. 6 pattes plus ou moins longues, 2 gros yeux et des mâchoires impressionnantes. Leurs mandibules sont situées au bout d'un genre de tube qu'elles actionnent comme un caméléon envoie sa langue pour capturer leur proie et qu'on appelle le masque parce que quand il est plié, il dissimule les pièces buccales. En général, les larves sont toutes petites, mais certaines atteignent jusqu'à 7 cm. Il arrive que celles de certaines espèces mettent jusqu'à 5 ans pour se développer, quand une fois adultes, elles ne vivent que quelques jours à quelques semaines. Le développement larvaire est influencé par différents facteurs, comme les conditions climatiques, mais aussi la date de ponte. Pour vous donner une idée, si la ponte de l'Anax empereur a eu lieu en avril-mai, ces larves, les plus grosses vivant par chez nous, peuvent mettre entre 3 à 4 mois avant d'émerger au mois d'août. Si la ponte a lieu en fin d'été, les larves émergeront au printemps suivant. Parce que si les adultes, les imagos disent les scientifiques, vivent sur terre et batifolent dans les airs, leurs larves sont aquatiques. Celles des demoiselles ont des branchies au bout de leur abdomen et celles des libellules ont un tout autre système. Leurs branchies sont internes et localisées dans le rectum. De cette particularité, elles font une force car après avoir aspiré l'eau par l'anus, elles peuvent l'éjecter d'un coup et ainsi se déplacer rapidement en cas de souci. Une sorte de turbo, quoi. Et puis elles ont une autre capacité bien utile, celle de mettre en pause leur fonction vitale pour vivre sans eau en attendant que la pluie vienne. On appelle cela la diapause. Et avec les sécheresses que nous vivons, c'est pratique. Cette résistance au manque d'eau est d'ailleurs un facteur clé de la sélection naturelle à l'œuvre actuellement. À l'état larvaire, nos odonates vivent de 9 à 16 mues selon les espèces, avant de passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Dès que la larve est prête, elle monte sur une branche ou sur un rocher où elle s'immobilise. Et là, elle rejoue alien. L'imago sort progressivement de sa vieille enveloppe, qu'on appelle l'exuvie, par un trou situé sur le dessus du thorax. Ensuite, elle déploie ses ailes pour les faire sécher. L'émergence dure 1 à 2 heures tout au plus. Cela dépend des espèces et des conditions météo. Notre odonate est alors très vulnérable, car son corps est mou et sans protection. Une fois sec, l'insecte peut quitter les environs du point d'eau. Son corps n'est pas encore très coloré et ses ailes brillent de l'éclat de la jeunesse. Il peut désormais partir à l'aventure, vivre son adolescence faite de chasse et de chasse. Il faut bien prendre des forces. Les libellules vraies peuvent s'éloigner à plusieurs kilomètres des zones d'eau qu'elles ne rechercheront qu'une fois prêtes à se reproduire. Les mâles attendront alors les femelles au bord de l'eau où ils s'accoupleront en formant des petits cœurs posés au bout des herbes aquatiques, sur les rochers ou s'élevant carrément dans les airs. Romantique ces petits cœurs copulatoires, non? Pourtant, encore une fois, les apparences semblent trompeuses. Car ça n'est pas toujours un grand moment de tendresse. Si vous apercevez là un calopteryx hémorroïdal en train de faire du surplace en exhibant devant une femelle son abdomen brun-violet métallique avec une tache rose-rouge à son extrémité, d'où son nom, vous l'aurez compris, n'allez pas généraliser. Seuls les calopteryx s'encombrent de la séduction. Les autres sont à l'affût, en vol ou à l'arrêt, défendant brutalement leur territoire de leurs concurrents potentiels qu'ils n'hésitent pas à bousculer et s'accrochant à la femelle dès qu'elle passe sans même lui demander son avis. Mais les femelles n'ont pas dit leur dernier mot. Une étude menée à Zurich par le biologiste Hassim Khalifa a montré que certaines se laissaient brusquement tomber au sol, simulant le crash, la mort, pour que les mâles les laissent tranquilles. Et il semblerait que la technique marche plutôt bien. D'autres femelles essaient de s'en défaire à grand renfort de looping, jusqu'à ce qu'ils lâchent. Pas si romantique, finalement. Si elle consent, alors le cœur copulatoire peut se former. Et c'est unique chez les insectes. Le mâle transfère son sperme chez la femelle, lequel sera simplement stocké, puisqu'elle ne féconde les œufs qu'au moment de la ponte. Or, certains mâles ne lâchent la grappe des femelles qu'une fois assurés qu'elles pondent bien leurs propres œufs. Car si entre-temps un autre accouplement a lieu, leur sperme s'en trouverait évacué. Selon les espèces, la ponte aura lieu dans les tissus des végétaux aquatiques, dans l'eau, sur du bois flottant. Ce qui a un impact sur la forme des œufs, ronds, longs, d'où sortiront les larves. Ainsi va leur vie, jusqu'à ce que ces odonates arborent des couleurs affadies et déploient des ailes abîmées avant de faire place aux jeunes. Environ 6000 espèces d'odonates sont connues dans le monde. 98 en France, 39 à Toulouse, 38 à Paris et 44 à Marseille. Dans les années 60, elles ont eu la vie dure du fait de la destruction massive de leurs habitats et principalement des zones humides. Aujourd'hui, le principal enjeu est celui du réchauffement climatique. Avec l'assèchement des milieux, les espèces qui vivent dans des zones peu profondes, comme les tourbières, sont menacées. Le changement climatique fait migrer de nouvelles espèces depuis le sud. Le rouge violacé Trithemis annelée, par exemple, qu'on peut rencontrer assez facilement dans le sud de la France, est une espèce afrotropicale qui n'est présente en métropole que depuis 1994. Les canaux, les fleuves, les mares des jardins publics ou des particuliers constituent divers lieux de ponte possibles. Le problème, ce sont les poissons des bassins, grands prédateurs de larves. Si vous faites une mare, n'y mettez pas de poissons, laissez faire. Il paraît que la nature a horreur du vide. Vous auriez alors plus de chances de voir un jour s'y poser un de ces singuliers insectes, gracieux et sophistiqués que sont les odonates.
Espace d'espèces.
Espace d'espèces. Une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
Le simple mot de cimetière a le pouvoir de plonger les pierres blanches des caveaux dans l'ombre de cyprès, de parer le ciel d'un gris sombre et même d'installer la nuit dans un silence de mort que seul vient troubler le croassement des corbeaux survolant ce désert minéral planté de croix rouillées. Il tient bien ouvert les yeux jaunes des chats, noirs de préférence, qui feulent entre les plaques des tombes envahies par le lierre, éteintent les chrysanthèmes de tristesse, les desséchant sous le regard impuissant des portraits en porcelaine. À entendre le mot « cimetière », on en tremblerait presque de peur tant il est chargé de feux follets et de crânes abandonnés. Le cimetière, c'est la mort dans son apparat de marbre et de granit.
Et on oublierait presque qu'il y pousse des pissenlits, dont les racines sont supposées nourrir nos défunts.
Ouais, c'est pas tout à fait raccord avec l'expérience qu'on en a. De nombreux cimetières en ville sont plutôt des espaces agréables où se balader et lire au calme. Et si vous tendez l'oreille, vous ne risquez pas d'entendre le vent dans les poils d'un loup-garou. Mais si vous tombez bien, vous pourrez peut-être percevoir le... de la huppe faciée, un bel oiseau d'une trentaine de centimètres, coiffé d'une touffe de plumes orange et aérodynamique, aux extrémités teintées de noir. Son nom ne vient d'ailleurs pas de sa coupe de plumes, mais de son cri. De profil, sa tête ressemble à une pioche, car la courbe de sa huppe se prolonge par son bec long et arqué. Ajoutez à cela son plumage, sable et orangé sur la tête, la partie ventrale et le haut du dos, noir et blanc sur le dos, les ailes et la queue. Vous la reconnaîtrez facilement. Si la huppe faciée traîne par ici de mars à septembre, c'est sans doute qu'elle y trouve une bonne diversité d'insectes et de larves à picorer. Car cet oiseau qui se nourrit uniquement au sol en fouissant a besoin d'une entomofaune, entomo, insecte en grec, riche et variée. Et regardez, là-bas, un écureuil roux. Il est encore en train de boulotter des cônes de cyprès, des petites boules qui semblent façonnées dans une carapace de tortue. Des cyprès, il y en a beaucoup dans le cimetière. Et pour cause, dans les mondes méditerranéens, c'est un arbre associé au deuil et à la vie éternelle. C'est d'ailleurs le bois généralement utilisé pour les cercueils des papes. Dans notre imaginaire, au milieu des allées en gravier, des rangées de tombes et de monuments funèbres, c'est un peu la seule plante à laquelle on pense. Cimetière rime souvent avec espace aride, minéral, où le soleil et le froid viennent chacun leur tour frapper la pierre omniprésente. Et pour cause, on a longtemps cherché à maîtriser ce milieu, à le maintenir stérile de toute vie non désirée. Car laisser le lierre grimper, l'herbe pousser, les animaux s'installer, aurait pu donner une impression de négligence. Or, on n'abandonne pas nos morts. On a donc gratté les lichens et tondu les herbes, bataillé contre les sauvages, notamment à coups de chimie. Résultat, dans beaucoup de ces cimetières minéralisés, l'été, il faisait en moyenne 3 degrés de plus qu'ailleurs dans la ville. J'en parle au passé, car si le côté minéral reste une caractéristique des cimetières, ces dernières années, ils ont quand même bien changé. En 2022, la loi Labbé qui réglemente l'utilisation des produits phytosanitaires y est applicable. Désormais, dans tous les lieux fréquentés par le public ou à usage collectif, tels les stades, utiliser des produits phytosanitaires, herbicides, fongicides, insecticides, etc., est interdit. On y développe ainsi de nouveaux modes de gestion, avec des fauches moins systématiques, des tontes moins rases et un peu de laisser-faire. Cela s'inscrit dans une tendance générale qui consiste à considérer les cimetières autant comme des lieux symboliques que comme des espaces de promenade, des parcs propices au déploiement d'une biodiversité. On pense désormais les cimetières dans ce qu'on appelle la trame verte, un ensemble d'espaces verts liés entre eux de sorte à assurer la continuité des milieux pour toutes les espèces, afin qu'elles puissent circuler et s'alimenter, se reproduire, se reposer, en deux mots, assurer leur cycle de vie. Baladez-vous entre les tombes et observez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces lieux de recueillement abritent un impressionnant cortège d'êtres vivants. Il faut savoir que les cimetières sont des espaces de recomposition des strates végétales. Observez un peu comment le calcaire d'une concession à l'abandon s'effrite à mesure que le saxifrage à trois doigts, aussi appelé perce-pierre, s'en prend à lui. Saxifrage vient du latin saxum, rocher, et frangere, briser, tout un programme. C'est comme si cette petite plante à la tige rougeâtre, aux feuilles à trois lobes, couverte de poils collants et dont la couleur varie du vert à rouge, comme si cette petite plante aux fleurs blanches et délicates rejouait la grande histoire du vivant en colonisant ce milieu aride et en y créant les conditions adéquates pour qu'une autre plante plus exigeante puisse s'y installer et inviter d'autres espèces, notamment animales, butineurs, prédateurs, parasites, pour que se déploient les différents étages de végétation comme autant d'habitats et de garde-manger. Dans certains cimetières, on peut ainsi observer les quatre strates végétales. La strate bryolichénique, les mousses et les lichens, la strate herbacée, les herbes, à laquelle appartient notre saxifrage, la strate arborescente, les arbustes, et enfin la strate arborée, les arbres. Nombreux sont en effet les arbres anciens ou remarquables qui se logent dans les cimetières urbains. Ainsi, les ifs du cimetière de la Madeleine à Amiens, les cèdres de celui de Chilvert à Poitiers, ceux du Père Lachaise de Paris, du cimetière Saint-Pierre à Aix-en-Provence, ou encore le micoucoulier de Terre-Cabade à Toulouse qui mesure 30 mètres de haut et 4 mètres de circonférence. Un record. Les plantes qu'on trouve dans ces espaces sont des génies de l'adaptation. Des figuiers enroulent leur tronc au caveau. Certains arbres parviennent à se développer à partir de semis sur des toits de concession. Dans ce milieu très minéral, on n'a pas de prairies et certains matériaux funéraires, comme le granit, recommandé par les professionnels pour sa forte résistance à l'érosion, rendent la vie dure à qui n'est pas xérophile, amatrice des milieux secs, comme l'est la sabline à feuilles de serpolet. Et puis, il faut que les graines fassent leur chemin parmi les tombes ou dans les fissures des pierres. Et à ce jeu, certaines plantes, comme la cardamine hirsute, sont championnes. La cardamine ressemble à du cresson. Elle a une base velue en rosette. Ses feuilles au sol forment un cercle et peut mesurer jusqu'à 25 cm de haut. Elle arbore de petites fleurs blanches à 4 pétales, puis une grappe fructifère assez longue et dressée. Ses fruits s'ouvrent brutalement, de manière explosive, en projetant ainsi leurs nombreuses et fines graines à une longue distance. L'idée est ainsi de multiplier leurs chances de trouver des endroits propices où germer dans ce milieu hostile. Si l'on y prête un peu attention, on se rend vite compte qu'il existe dans certains cimetières différents milieux, voire micro-milieux. Prenez les ornements funéraires, dont les barbotines, souvent des fleurs en porcelaine. Certaines retiennent l'eau de pluie et créent ainsi de toutes petites zones humides, parfois même des micro-mares où l'on peut trouver des mousses et des fougères, comme la doradille des murs. À plus grande échelle, si vous ouvrez bien l'œil, vous pourrez voir sortir d'un caveau gorgé d'eau un arbre à qui il ne déplaît pas d'avoir les racines qui baignent, un saule marceau. Moins assujetti au milieu humide que ses semblables, celui qu'on appelle parfois le saule des chèvres, Salix caprea, est considéré comme une espèce pionnière, une des premières espèces à coloniser des espaces écologiques jusque-là dépourvus de vie. Ces espèces ouvrent la voie aux autres, car elles sont capables de résister au stress, eau, luminosité, chaleur ou froid intense, forte ou faible teneur en nutriments, mais aussi parce qu'elles ont une croissance rapide et des stratégies de reproduction efficaces. Autres espaces, autres espèces. Dans les entretombes, on trouve de toutes petites zones herbeuses dans lesquelles vous pourrez rencontrer toutes sortes de plantes. L'étron, orge d'Héra, valériane, mauve, achillée millefeuille, sorgho d'Alep, folle avoine, flouve odorante. On trouve même des violettes odorantes qui aiment les sols frais. Et certaines de ces plantes viennent avec leur cortège de butineurs, abeilles sauvages, papillons, syrphes, les petites mouches au vol stationnaire. Et encore, nous ne parlons ici que des petites spontanées. Mais on trouve dans les cimetières un grand nombre d'échappées. Plantées pour rendre hommage aux défunts ou en ornement, elles se sont ensauvagées. Muscari, cyclamen, joubarbe. Mais assez planter les yeux au sol. Fermez-les un moment et écoutez. Les paysages de cimetières sont aussi sonores. Vous entendez ce chant mélodieux, fait de sons flûtés et se terminant par des gazouillis ou de légers grincements ? C'est un merle noir, Turdus merula. Chaque mâle a son propre répertoire. Dans cet orchestre, le pivert s'occupe principalement des percussions. Quand ce n'est pas avec son chant, une même note répétée rapidement une dizaine de fois décrescendo, c'est via le martèlement de son bec contre les troncs et les branches. Une technique utile pour manger et travailler à sa loge. Des pouillots participent aussi au concert, dont le pouillot de Bonelli, qui dissimulant sa dizaine de centimètres dans les frondaisons, lâche ses trilles sonores. Il faut dire que les cimetières sont des espaces refuges. Relativement préservés du bruit de la ville alentour, pas si fréquentés par les humains, ils ont aussi la particularité d'être plongés dans l'obscurité la nuit, ce qui est plutôt rare dans l'espace urbain. Alors, après la tombée du jour, on entend même parfois la chouette hulotte. Vous savez, c'est celle dont on fait retentir le ululement dans les films ou podcasts pour signifier qu'on est la nuit. Ce petit rapace trapu a une tête bien ronde et un masque facial plat où s'imposent deux gros yeux. La hulotte vit en moyenne 18 ans et reste fidèle à son nid. C'est un redoutable prédateur pour les petits rongeurs du cimetière, mais aussi pour les chauves-souris, à l'affût des nombreux moustiques qui pullulent, car l'eau s'infiltre et stagne dans les tombes sans qu'il y ait de réels prédateurs pour leurs larves. Outre les chats, véritable danger pour tout un tas d'espèces, on trouve ici plusieurs mammifères, dont des petites boules d'épines solitaires aux populations en déclin, les hérissons d'Europe. Ces petits habitants de la nuit se faufilent entre les tombes, libérant malgré eux, par le léger frottement de leur corps au sol, l'odeur mentholée des calamans qui poussent sur leur chemin, ou celle plus citronnée de la mélisse. Car en plus d'être sonore, le cimetière est un régal pour les narines. Or, notre hérisson, s'il ne s'intéresse pas trop à la flore, a un puissant odorat qui en fait un très bon chasseur. Ce qui est heureux, car non seulement il est myope comme une taupe, mais c'est un véritable ventre sur pattes. Il raffole des escargots, mais peut aussi très bien manger des vers de terre, perce-oreilles ou petits coléoptères, à moins qu'un oisillon ou un jeune rongeur ne soit tombé du nid. Tout ça fait du monde, et ce n'est qu'un maigre aperçu. La mutation des cimetières est en cours en France, comme dans beaucoup de pays européens, et il se pourrait bien que de nouveaux venus viennent enrichir encore cette diversité d'habitants.
Espace d'espèce, une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
qui a peur de la forêt, des montagnes, de la nuit et des animaux sauvages, se réfugie souvent en ville, à couvert, au cœur de la civilisation. Pourtant, si nos yeux étaient plus vagabonds, plus alertes à l'endroit des autres animaux, ils seraient parfois les témoins de scènes d'une bestialité terrible, de combats territoriaux violents, de queues arrachées et d'honneurs bafoués. Levez les yeux sous la lumière du lampadaire. Vous ne voyez pas que le revêtement lisse et rassurant de ces murs est en réalité bien souvent un théâtre où se joue le destin d'animaux sauvages ? Ici, dans nos quartiers, vivent désormais des créatures squameuses, semblant tout droit sorties du temps des dinosaures. Tremblez, car les Tarentes de Maurétanie envahissent l'Europe. Non, je plaisante. Ces petits animaux sont certes un peu agressifs entre eux quand il s'agit de défendre leur territoire en période de reproduction, mais ils sont tout à fait inoffensifs et en milieu urbain plutôt cool avec leurs semblables en dehors de cette période. Regardez autour de vous. Vous en apercevrez sans doute sous les points lumineux, leur restaurant préféré, occupé à ingurgiter des moustiques, des papillons de nuit et autres insectes ou invertébrés. Ces Tarentes de Maurétanie sont ce qu'on appelle des geckos, et leur nom officiel est Tarantola mauritanica. Ce sont de petits reptiles, et plus précisément encore, des squamates, des animaux à écailles, que l'on classe parmi les lézards. En France, on peut observer trois espèces de geckos. Le lepte d'Europe, le gecko verruqueux est notre tarente de Maurétanie, la plus répandue et aussi la plus grande, car elle peut atteindre près de 20 cm de long, queue comprise, même si elle s'en tient généralement à une quinzaine. On la reconnaît facilement à sa grosse tête et à son corps robuste et trapu, surmonté d'épaisses épines alignées sur son dos, qu'on appelle dans le jargon des tubercules. Sa couleur varie entre le beige clair et le brun foncé. Elle pourrait néanmoins changer de teinte en une heure. A priori pas pour réguler sa température, comme le font d'autres reptiles, mais plutôt en fonction de son environnement, pour se camoufler, se rendre le moins visible possible pour les prédateurs éventuels. En parlant de prédateurs, vous avez sans doute déjà observé des geckos sans queue. Ce peut être le résultat d'une attaque, mais il y a bien d'autres raisons possibles, car la queue du gecko, comme celle de nombreux lézards, est très fragile sous ses aires de durs coquillages, avec ses tubercules en anneaux. Et si elle venait à se rompre, ce qui est donc monnaie courante chez les geckos, elle repousserait, mais de plus en plus lisse. L'observation précise d'un de leurs représentants n'est jamais simple, car les Tarentes de Maurétanie sont farouches et très vives. Cela dit, si vous parvenez à plonger dans leurs deux gros yeux les vôtres, ne faites pas de combat de regard. Cela pourrait durer très longtemps. Ce gecko, comme beaucoup, n'a pas de paupières, mais une écaille transparente qui protège l'œil. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu sortir sa longue langue pour se lécher les yeux. Ces tarentes ayant une bonne vue, c'est important pour elles de garder leurs pupilles bien propres. Ces petites fentes verticales et noires, adaptées à la vision nocturne, au milieu de leur iris gris. Mais leur langue ne leur sert pas uniquement de lasso ou de serpillière. Et lorsqu'elles la tiennent hors de la bouche, ce n'est pas pour la faire sécher, non. Quand elles semblent lécher l'air, les tarentes de Maurétanie récoltent en fait des molécules odorantes. Elles sentent les odeurs avec leur langue. Mais l'élément le plus génial chez ce petit animal se trouve sans conteste au bout de ses pattes qui se détachent largement sur ses côtés. Ses doigts, qu'on pourrait prendre pour des ventouses. Vous en connaissez beaucoup, vous, des animaux qui peuvent escalader n'importe quelle surface, vitre comprise, marcher la tête en bas et qui sont capables de tenir accrochés au mur par un seul de leurs 5 doigts ou orteils ? C'est parce que notre tarente a sous ses pattes ce qu'on appelle des setas. Ces poils microscopiques et très denses forment des lamelles qui engendrent des interactions avec le support à l'échelle moléculaire, agis par des forces électrostatiques, ce qui leur offre une très grande adhérence. Et pour se décoller, il suffit de changer l'orientation des poils. Les geckos peuvent faire ça plus de 10 fois par seconde. Cette faculté intéresse beaucoup les scientifiques, dont les militaires, vous vous doutez bien. Mais ces derniers ne parviennent pas à obtenir des poils artificiels qui se régénèrent à mesure qu'on colle et décolle. Il n'y a pas à dire, la nature est bien faite. Arrêtons-nous un moment sur son nom. Il s'agit de la Tarente de Maurétanie, l'ancien royaume du Maghreb, et pas de Mauritanie, le pays voisin du Mali. Vous allez me dire, dans les deux cas, ça sonne pas trop du coin. Et pour cause, les anciens pourraient en attester, son installation à Toulouse est récente. Elle date d'il y a 20 à 25 ans tout au plus. Depuis, elle a en effet pris ses quartiers, et en particulier dans le centre-ville, où elle trouve facilement de la nourriture et peut jouir des îlots de chaleur urbains. Pour elle, 20 degrés, c'est un minimum. Elle s'adapte très bien à de hautes températures, mais supporte très mal le froid. C'est pourquoi, entre octobre et mai, par chez nous, elle se trouve un abri dans les anfractuosités du bâti, les maisons, les garages, les greniers ou autres, et ralentit ses fonctions vitales pour survivre aux basses températures. On l'a dit abusivement à sang-froid, alors que plus spécifiquement, mais nettement plus compliqué, il faudrait qualifier ce lézard de poikilotherme, c'est-à-dire dont la température interne varie. Contrairement à nous, les geckos, comme beaucoup de reptiles et batraciens, doivent adapter leur comportement aux conditions météo s'ils ne veulent pas mourir. En gros, se mettre au chaud quand les températures baissent et s'exposer au soleil pour se charger en chaleur. Leur vie est donc conditionnée par les températures extérieures. La tarente de Maurétanie est principalement nocturne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en voir le jour, mais simplement qu'elle n'est active que de nuit, au petit matin ou à la fin de la journée. C'est là qu'elle chasse, se bat, se reproduit. Au printemps, les femelles pondent plusieurs fois, donnant en général 2 œufs par ponte. Il faudra attendre une 30aine de jours pour les voir éclore, et les jeunes sont très vulnérables, d'autant qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs parents, puisque non seulement ils ne se reconnaissent pas, mais en plus, il arrive que les anciens mangent les petits.
La tarente de Maurétanie vit dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest ainsi que d'Afrique du Nord. Elle a également été introduite dans quelques pays d'Amérique du Sud. En France, l'espèce est historiquement présente dans la zone méridionale. En Provence, on la connaît bien, de même que du côté de Montpellier. Mais ces dernières années, sa population augmente et progressivement s'implante plus au nord. On en a même observé jusqu'à Strasbourg.
Intriguée par la progression très rapide de son aire de répartition, un véritable cas d'école, une équipe de scientifiques de l'université Paul Sabatier de Toulouse a lancé un dispositif de recherche participatif nommé Gécolocalisation afin de multiplier les données, cartographier leur présence et dessiner des tendances pour l'avenir. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais il semblerait que si son aire de répartition augmente, c'est à la fois parce qu'elle aime les siestes au soleil, que le réchauffement climatique rend possible dans de plus en plus de zones géographiques, et parce que nous continuons à en introduire de manière fortuite mais répétée, en les embarquant sans le vouloir. Le temps permettra de savoir si les individus rencontrés ici ou là ces dernières années, probablement tombés d'un camion, sortis d'un pot d'olivier ou d'une cagette de légumes en provenance du sud, s'adapteront ou pas à ce nouvel environnement. Et s'ils s'y trouveront suffisamment bien pour s'y reproduire. Après la Corse et la côte méditerranéenne, leur implantation est désormais avérée à Toulouse, et on en voit de plus en plus du côté de Bordeaux, et généralement dans le sud-ouest de la France. Si on en repère plus en milieu urbain, c'est sans doute que les villes sont des axes de communication et d'échange de marchandises. Les geckos ou leurs œufs se laissent facilement véhiculer, se glissant ici ou là pour se mettre à l'abri, sans se douter que cela les conduira parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Puis ils y restent, parce qu'en ville, le béton garde la chaleur les nuits d'été. Mais c'est aussi peut-être qu'en campagne, ils sont plus durs à observer, ne se concentrant pas tous au même endroit et multipliant les supports, les murs, mais aussi les arbres, les murets, les rochers. Attention, si le gecko est en pleine expansion, c'est loin d'être le cas des autres reptiles. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature en 2022, un reptile sur 5 serait aujourd'hui menacé d'extinction dans le monde. La cause première, la destruction de leurs habitats. En cause aussi, le réchauffement climatique, l'arrivée d'espèces non endémiques et la mauvaise réputation de certains reptiles, notamment les serpents. En France, on compte 418 espèces de reptiles, dont 47 en métropole. Un suivi qui a été réalisé auprès de 269 de ces espèces révèle que 22% d'entre elles sont menacées d'extinction. Les tarentes de Maurétanie sont plutôt des animaux solitaires, et a priori, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui, elles ne font pas d'ombre aux autres lézards endémiques, rares en ville et plutôt diurnes, mais dont il arrive quand même parfois qu'elles mangent les rejetons. La tarente ne semble globalement pas avoir d'impact négatif sur nos écosystèmes. Elle agit pour nos nuits tranquilles, car elle contribue à réduire la population des moustiques et mange même les cafards. On a donc toutes les raisons de lui faire bon accueil, ce que ne font pas les chats, qui se lèchent les babines et constituent, comme pour beaucoup d'espèces, des prédateurs redoutables, de même que les rares oiseaux nocturnes urbains. Pas de quoi s'affoler donc, d'autant que le gecko, comme tous les reptiles en France, est une espèce protégée par la loi.
Article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007.
Il est donc strictement interdit de détruire ou d'enlever ses œufs, de le mutiler, capturer ou de l'enlever et de le perturber intentionnellement. Alors patouche. Sa récente arrivée en Europe fait que la tarente de Maurétanie est plutôt absente des contes, histoires et légendes de nos régions. À part les quelques peintures et motifs en céramique très présents sur les marchés, les geckos ne font pas partie de notre folklore. Et c'est bien dommage. Au Sri Lanka, par exemple, on sollicite les geckos, pas les nôtres, d'autres espèces, pour faciliter la prise de décision. Si le gecko gazouille doucement, alors il est d'accord. S'il gazouille fort, c'est qu'il pense que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Qui sait si nos imaginaires ne produiront pas bientôt des rituels où la tarente de Maurétanie jouera le premier rôle. Petites échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.